des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Marc-André, ces dernières semaines, c'était l'occasion de cotiser à TRR. Et que dirais-tu de rêver un peu et de s'imaginer que le montant que tu as investi dans TRR ou que tu n'as pas investi dans TRR, eh bien que ce montant-là, on le dépensait ou on l'investissait dans l'achat d'une automobile qui pourrait prendre de la valeur. Et non, il ne s'agit pas d'un conseil financier. Je le précise avant de recevoir des plaintes, voire des mises en demeure, voire toutes sortes de choses.
C'est un fait, justement, que des grandes entreprises financières, là, surtout en Europe, vont conseiller à leurs clients les plus riches, pour se diversifier, bien entendu, là, de ne pas seulement investir à la bourse ou dans les métaux précieux, mais également d'investir dans les automobiles. Parce qu'en effet, il y a des modèles de voitures, là, des modèles plutôt rares, des modèles plutôt prestigieux qui non seulement ne perdent pas de valeur, mais en gagnent toujours. Ce sont donc de belles manières de garder son argent en vie, de la faire fructifier.
Et comme on n'a pas tous les moyens de se procurer une Ferrari 250 GTO, on a dressé, toi et moi, une liste absolument non exhaustive de modèles qui pourraient être appelés à prendre de la valeur dans des mesures différentes.
Oui, puis je pense que notre liste se complète bien. En fait, on n'a vraiment pas la même opinion, mais...
Absolument pas!
Je pense que écoutez, si vous avez les moyens d'acheter ce qu'on vous suggère, revenez-nous dans 10 ans et on va pouvoir voir qui de moi ou Germain avait la meilleure idée.
On part!
On part là-dessus.
Marc-André, mon mantra dans l'achat d'automobile dans le but de voir ses dollars être glorifiés, le mot d'ordre est assez simple, c'est-à-dire d'acheter le véhicule lorsqu'il est à son point le plus bas de la vague.
Ben c'est logique. Plus tu la jettes bas, ben moins il coûte cher. Tu sais, ça te prend moins d'argent de l'acheter, puis tu peux juste bénéficier peut-être plus d'une hausse de valeur.
Parce que presque tous les véhicules déprécient avec le temps. Il arrive à un certain point où le véhicule ne perdra plus de valeur. Donc autrement dit, un véhicule qui valait, je ne sais pas, 40, 45, 50 000 $ lorsqu'il était neuf, et ben à un moment, il coûte 2, 3, 4, 5, 6 000 $ et ben la dépréciation est quasi inexistante. Et là, à ce moment-là, il est rendu à 15 ou 20 ans d'usure, il a été bien conservé. Et par la suite, on pourrait voir la pente remonter.
Oui, en fait, c'est difficile, hein, des fois, de savoir c'est quoi les autos qui vont prendre la valeur ou pas.
Il y a certains indicateurs qui ne mentent pas. Oui, il y a des véhicules produits en édition très, très, très limitée, mais encore faut-il avoir le bon contact pour se la procurer, parce que, ben, justement, c'est des véhicules en édition limitée qui prennent de la valeur avant même de sortir de chez le concessionnaire. Mais il y a des véhicules aussi qui vont être des vedettes de films ou des vedettes du petit écran qui vont attirer la sympathie des amateurs. Donc, on peut penser là à la franchise Rapide et Dangereux, ou comme on dit, Fast and Furious, qui a aidé à
populariser, je pense, la modification de voiture.
Oui, exactement. Donc, certains modèles qui sont peut-être un peu plus recherchés grâce à cette série de films qui semble, ma foi, interminable.
Ben, tu vois, c'est même pas juste une question de rareté au final. Ça peut être aussi une question de popularité, tout simplement. Par exemple, t'as des autos qui ont été produits en beaucoup d'exemplaires. Prends une Porsche 911, là. Ouais. Des dernières années, ils ont tous pris de la valeur. Même les modèles les moins intéressants de base des années 90, plus achetables aujourd'hui, ils ont tous pris de la valeur. Puis c'est des autos qui sont amplement disponibles, là, sont juste dispendieuses. Tandis que tu peux avoir des autos super rares. Si t'as personne pour les acheter, ben, ils vaudront rien, là.
Effectivement.
Si j'ai un modèle obscur des années 30, là, que personne veut, même si je pense que ça vaut 100 000, je vais peut-être le vendre 35 au final.
Et il y a un phénomène générationnel. Donc, on a vu les voitures des années 40, par exemple, baisser en valeur et on peut s'attendre à ce que les modèles des années 50 subissent à peu près le même sort. Les grands modèles des années 50, on peut penser à des Plymouth Fury décapotables ou des Chevrolet Bel Air 57, par exemple, continuent d'avoir la cote, mais une fois que la génération du baby boom sera en CHSLD, par exemple, et mangera de la purée, eh ben, parce qu'on va se le le dire, c'est ce créneau-là d'acheteurs qui s'échangent ces voitures-là en ce moment.
Ouais.
Donc, est-ce que la génération X, par exemple, va être intéressée à se procurer des voitures avec des grandes ailes comme dans les années 50? Ça demeure un mystère. Bref, Marc-André, ton premier véhicule qui, selon toi, va être appelé à prendre de la valeur au cours des prochaines années?
Ben, ça va peut-être te surprendre parce que c'est un véhicule qu'on peut encore techniquement se procurer, là, neuf aux États-Unis, plus ici, malheureusement, mais en tant que modèle 2020. Fait que tu vois, en partant, on dit on ne vend pas une voiture neuve. C'est la Lincoln Continental.
OK.
Ça, c'est la dernière. Non, écoute, j'ai une bonne raison pour ça. C'est que
la Lincoln... Juste une?
Ben, disons que la Continental, en partant, là,
oui.
C'est quoi? C'est le dernier effort de Lincoln pour produire la grosse berline de luxe américaine. Mm-hmm. Ça, des grosses berlines de luxe américaines, ben, il y en a plus. La dernière, en quelque sorte, c'est la Chrysler 300,
oui.
Mais est tellement vieille que c'est un fossile vivant, là. Elle est encore vendue, mais ça n'a pas changé depuis 2015. Même chose pour la Charger. On tient cette voiture-là en vie, tu sais,
en mettant
toujours des gros moteurs, mais le cœur de la voiture, la voiture accessible, là, pas la voiture accessible, la voiture du quotidien, elle n'existe plus, là, chez Dodge, là.
Non.
Personne veut un Charger V6, là. On veut la version L4, Red Eye, Demon, blablabla. Mais la version de base, on n'en veut plus. Donc, Lincoln, c'était la dernière tentative, justement, de faire la grosse berline américaine de luxe. Quand elle est sortie, là.
Qui misait tout sur le confort. Là. Contrairement à Dodge, qui met des V8 suralimentés ou partout où on peut en mettre, chez Lincoln, on visait que le confort, le luxe.
Ah oui, on s'en cachait pas, là. Tu vois, il y avait trois options de moteur. La version de base, pour te donner une idée d'un Continental, c'était à traction, ce qui est surprenant, avec un V6 de 3,7 litres qui existe depuis Mathusalem, là. Le bon vieux moteur qu'il y avait dans l'ancien CX-9, pour ceux qui aimaient aller à la pompe, ben eux s'en souviendront. Et bien entendu, il y avait des options. Tu vois, si on allait dans la plus équipée, on pouvait avoir un V6 biturbo de 3 litres, là, qui était bon pour plus de 400 chevaux puis 400 livres-pieds de coupe. Ça, c'est la Continental la plus équipée. Ben, tout équipé, Germain, elle valait 80 000 $. Pourquoi je pense que cette voiture-là va prendre la valeur, là? Peut-être pas l'an prochain, mais je pense que dans 10 ans, tant que j'en achète une, genre dans 2-3 ans, dans 10 ans, je suis convaincu qu'elle va regarder sa valeur, peut-être même d'avoir pris, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Puis c'est une voiture qui représente le summum d'une époque, c'est-à-dire de la grosse berline américaine. Il n'y en aura plus de voitures comme ça, pas à essence du moins, pas avec 400 chevaux à essence. Puis je suis convaincu que dans quelques années, ben des gens nantis ou du moins des gens qui cherchent à faire une acquisition intéressante pourraient se tourner vers ce modèle-là qui n'aura jamais eu le succès que Lincoln aurait aimé.
Je suis d'accord avec toi, mais non, en même temps, oui, ça représente un achat intéressant dans l'occasion parce que pour moins de 40 000 $, tu vas mettre la main un exemplaire usagé de 2 ou 3 ans et on s'entend que pour un modèle comme ça, le pouvoir de négociation, il est énorme. Mais là où je suis peut-être un peu moins d'accord, c'est l'historique de la voiture de collection chez Lincoln dans les 30 ou 40 dernières années. Qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant? Qu'est-ce qui a
le MK7, Germain.
Non, Marc-André, non. Qu'est-ce qui a pris de la valeur dans les véhicules produits par Lincoln dans les 30 dernières années?
Pas grand-chose, mais
Même dans les 40 dernières années.
Mais tu vois, aux États-Unis, en ce moment, un véhicule qui gagne en popularité auprès des collectionneurs, entre gros guillemets, c'est le Mark LT. Le pick-up Lincoln, là, est en train étonnamment de redevenir populaire. Les gens
Parce que les pick-ups sont à la mode.
Ouais, mais les gens aiment l'idée d'un pick-up de luxe que personne connaît vraiment, blablabla. Je suis d'accord avec toi que Lincoln passe en ce moment. C'est une marque qui, depuis longtemps, là, on sait plus trop ce qu'on s'en va avec ça. On a complètement abandonné la voiture sportive. On est que dans la voiture confortable.
Que dans le VUS.
Ben, en fait, en ce moment, oui, là, on s'en cache même pas. Sauf aux États-Unis, encore une fois, où on peut acheter un Continental 2020, mais ça ne serait tardé avant qu'on tire définitivement la plug là-dessus. J'imagine qu'on fait ça pour écouler l'inventaire qui reste, puis c'est à peu près ça, là.
T'as fait référence au Mark LT, donc la camionnette de chez Lincoln.
Oui.
Effectivement, je l'avais noté de mon côté aussi, les camionnettes américaines des années 90. Pourquoi les années 90? Ben parce que celles des années 70 et 80 sont déjà hors de prix pour bien des collectionneurs.
C'est vrai, ça.
Et quand on regarde les camionnettes de manière générale, ben c'est des véhicules qui sont faits pour travailler, pour remorquer, pour tirer, pour...
Emporter dans la boîte.
Pour emporter dans la boîte des véhicules qui vont servir sur des terres, des véhicules qui vont servir à des entreprises. C'est pas nécessaire nécessairement des véhicules dont on prend un soin énorme. Donc, de 25 ans plus tard, d'en avoir un exemplaire qui a bien survécu, qui a pas été emporté par la rouille, ben c'est plutôt rare de voir un exemplaire qui a pas non plus 300 000 kilomètres. C'est assez rare. Et pourquoi des années 90 plus que du début des années 2000? Parce que, ben, si on regarde, par exemple, du côté de chez Ford, ben, en 97, tout s'est éteint. On est arrivé avec le fameux bio-design qui s'est étiré là, jusqu'au début des années 2000. Donc, tout était rond. Je vois mal le collectionneur être nostalgique de cette génération-là. Oh, alors que la précédente, où on était vraiment dans la traditionnelle camionnette américaine, très, très, très carrée. Évidemment, bon, des versions à boîte courte avec cabine simple, mais avec la boîte de 8 pieds. Des versions dotées du système 4x4, des versions à boîte manuelle. C'est certain que ça va être un peu plus recherché. Et parlant de recherche, ben, j'ai jeté un coup d'œil sur le site. le roi de la transition opéré. Et j'ai jeté un œil sur le site Bring a Trailer, donc apporte ta remorque. Et un Ford de la série F des années 90.
Vas-y, le fun.
Comment?
Combien ça vaut?
Plus de 10 000. Un exemplaire en état décent. Pas une version Lightning super rare, pas rien.
Non, F-150 de base. Là.
Ordinaire des années 90, les modèles carrés, eh ben un ordinaire, c'est 10 000. Puis un très beau ou un plus désirable, ben c'est 20 000.
20 000 $
américains.
Donc, ça peut juste être appelé à gagner la valeur que les
années. Absolument. Absolument.
C'est débile, ça.
Et le phénomène s'observe autant chez Chevrolet, GMC, que chez Dodge avec le
Ram. Le pire, c'est que GMC...
Parce qu'à l'époque, on l'appelait le Dodge Ram.
Puis GMC a des pick-up intéressants, hein? Tu sais, ils ont fait des versions de performance là, de certaines camionnettes en plus. Donc,
avec le 454 chez Chevrolet, donc il y a des trucs, des mécaniques diesel aussi, bref. C'est à surveiller, si tu veux, mon humble avis.
Donc, ceux qui ont besoin de faire un coup d'argent, retournez-vous vers un vieux F-150, semble-t-il.
Oui, mais encore là, pas n'importe lequel, parce que il faut en trouver un qui n'a pas été ravagé par la rouille, bonne chance, qui n'a pas non plus 300 000 km.
Non, mais t'en prends un qui est en Californie ou en Floride, là.
Ouais, mais
occasionnelle pluie. Là.
Ça, c'est l'ennui souvent pour nous, pauvres Canadiens. Le taux de change.
Ah oui, en ce moment,
c'est
on se fait
terrible.
Massacrer, ça, c'est sûr.
Acheter un véhicule aux États-Unis, c'est difficile d'être rentable au bout de la ligne.
Mais écoute, hein, si tu réussis à le revendre, le prix que tu as payé au moins, actuellement, tu peux t'en sortir pas trop.
Voilà.
Moi, tu vois, je pensais à ça, là. Puis une auto que j'ai identifiée, qui est en vente encore en ce moment, là, comme un futur classique, c'est-à-dire une auto qui devrait vraiment garder et prendre sa valeur, c'est la Polestar 1. Ça, c'est la première voiture que Polestar a vendue. Le Polestar, on le rappelle, c'est la compagnie de luxe. C'est compliqué à expliquer, là, mais c'est essentiellement la compagnie haut de gamme que Volvo a. Et c'est compliqué à expliquer pourquoi, parce que Volvo, c'est déjà une compagnie de luxe. Donc, une compagnie de luxe qui crée sa propre compagnie de luxe, ça se peut pas vraiment. Et Polestar, c'est pas censé rivaliser avec Rolls-Royce, fait que c'est pas du très grand luxe. Et Volvo présente Polestar comme une compagnie indépendante dans laquelle...
Avec des modèles électriques, mais dont le premier modèle n'est pas entièrement électrique. Voilà.
Exactement. Mais pourquoi je dis que la Polestar 1, c'est intéressant? C'est vraiment pas à court terme qu'il faut voir ça. Parce que voyez-vous, une Polestar 1, là, c'est essentiellement une grosse jetée. C'est une voiture 4 places, 2 portes, un beau coupé. C'est magnifique. Ça coûte 200 000 $ canadiens en acheter une. À ce prix-là, on a quoi? Ben, on a une voiture hybride rechargeable qui a 619 chevaux, 737 livres-pieds de couple. D'ailleurs, c'est quand même beaucoup de puissance quand on considère que ton moteur thermique, c'est simplement...
Un 4 cylindres
de 2 litres turbo. Là. Le reste de la puissance électrique, donc c'est 4 roues motrices. On peut faire presque 100 km en mode 100% électrique.
Et mon Dieu, qu'elle est belle!
Ah oui, c'est une voiture dont les lignes sont superbes. Ça,
sûr que ça va bien évoluer sur le plan stylistique. Il n'y a aucun doute.
Ah, exactement. Quand on la voit, on sait que c'est un futur classique, dans le sens, comme tu dis, on va voir cette voiture dans 40 ans, on va être comme, c'est une belle voiture. T'sais.
Sur le plan du coup de crayon, ça va être encore très, très beau.
Exactement.
Est-ce que la technologie,
l'hybride rechargeable, on sait que dans 2035, tout va être électrique ou hybride rechargeable, donc elle va peut-être être dans le coup. Mais en 2045, elle ne le sera plus. Est-ce que ça va être possible de faire de l'argent avec cette voiture-là? Pas initialement, à coûter 200 000 $. C'est sûr que du moment qu'on sort du concessionnaire, on va être à 160 000 de valeur et ça va descendre.
Encore là, c'est un véhicule à production très, très, très limitée. Et c'est le premier véhicule d'une marque. Donc, il y a une valeur historique future intéressante.
C'est ça. C'est là, en fait, le pari avec la Polestar 1. C'est que si Polestar arrive à devenir une espèce de gros joueur de la voiture électrique de performance, t'sais, vraiment une marque désirable dans les années à venir, ben la première voiture de cette marque-là, là, c'est sûr que ça va être quelque chose qui va avoir une certaine valeur, comme la fameuse Roadster de Tesla, la première.
Bien sûr.
Tu sais, qui ont pris la fameuse Lotus Elise puis qui ont comme tout débarqué pour mettre des moteurs électriques. Ben cette voiture-là, ça aussi, c'est une auto qui va valoir cher plus tard. Pourquoi? Parce que c'est la première Tesla. Donc, dans le même ordre d'esprit, je crois que la première Polestar va valoir cher. Ça va être un bon investissement si et seulement si Polestar devient une marque intéressante. Si au contraire, Volvo, dans 10 ans, tire la plug en disant on n'a plus vraiment besoin de cette marque-là, on va retransférer Polestar chez Volvo en tant que division de performance, ben peut-être que ça va valoir moins. C'est un risque à prendre. Donc.
Écoute, je suis vraiment pas en désaccord avec cette idée. Cela dit, c'est sûrement pas tout le monde à la maison qui a 200 000 $ à jeter par les fenêtres et risquer.
Un petit tour à la banque, là.
Ouais, et de risquer ces 200 000 $-là. Et si c'est votre cas, eh ben, jetez peut-être un œil sur les Jeep Cherokee. Donc, le modèle 1984 à 2001, oui, c'est très long comme horizon de production. Et pourquoi ce modèle-là? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un engouement en ce moment pour les authentiques 4x4. Plus on voit de VUS neufs qui sont bâtis sur des châssis de voitures, oui, plus on s'ennuie des véhicules qui débordent de testostérone, qui débordent de personnalité, qui étaient carrés et qui avaient justement un vrai système 4x4. Quel authentique 4x4 a pris de la valeur dans les dernières années? Le Bronco, un exemple absolument flagrant.
Oui.
Et la même chose avec son rival, le Blazer. Et chez Jeep, ben, le Grand Wagoneer, c'est même plus achetable. On peut même plus permettre de rêver à ça. Pourtant, c'est une boîte à beurre avec un système 4x4, un gros V8, puis des panneaux de plywood sur les côtés. Ben oui, j'en rêve, même si c'est laid, mais j'en rêve quand même. Puis je suis pas tout seul, parce qu'un beau, c'est 50 000 aux États-Unis.
Quel rêve triste, genre.
Ben non, c'est pas triste. Donc, tout ça pour dire que, ben effectivement, le Cherokee continue d'être recherché. Pourquoi personne n'en a conservé? Personne n'a mis ça dans la ouate pour le ressortir 25 ans plus tard. Et ce qui l'aide aussi, c'est qu'il pourrissait par lui-même.
Non, non.
Donc, d'en trouver un qui a le sous-bassement encore en un morceau, ben bonne chance, vous venez de gagner à la loterie. C'est absolument introuvable dans un climat comme celui du Québec. Donc, c'est à surveiller. Évidemment, il y a eu des versions un peu plus intéressante qui se démarque avec le moteur à 6 cylindres en ligne de 4 litres, mais tout bon Cherokee qui n'est pas ravagé par la rouille, franchement vaut le détour à mon avis. Donc le modèle de deuxième génération, on le rappelle, qu'on reconnaît par l'appellation XJ.
Je suis d'accord avec toi.
Et combien ça vaut?
Ben, ça dépend de l'année, j'imagine, parce que
ben,
tu nous as
donné un... j'ai regardé sur Bring a Trailer, apporte ta remorque, Marc-André, et ordinaire, là, il n'y en a pas en bas de 10 000.
Encore, hein?
10 000! Pour un vieux Cherokee!
Sont-tu beaux, ceux-là, au moins?
Comment?
Sont-tu des beaux? C'est-tu des beaux?
Oui, oui, ils sont beaux. Évidemment, ils sont rouges, les plastiques sont beaux, ils n'ont pas 400 000 km, ils peuvent être turquoise aussi. Évidemment, c'est des belles versions, c'est des versions bien conservées, mais c'est pas non plus des véhicules qu'on pourrait qualifier d'exception, là. C'était assez ordinaire, un Cherokee, il y a 25 ou 30 ans.
Surtout les modèles plus de base, là. Tu sais, t'avais une finition pas très belle.
Ben non, écoute, il faut pas acheter ça et penser à avoir un exemple de finition incroyable. Ou encore avoir une conduite qui se démarque, là, absolument pas. C'est un vieux Jeep, là.
Comme quoi, la mode des VUS, c'est fou comment ça s'est transposé dans la voiture d'occasion. C'est, c'est hallucinant.
D'occasion et de collection, exactement. Marc-André. Donc, un autre véhicule qui est en creux de vague, mais qui remonte déjà, donc à surveiller. Ouais.
Moi, tu vois, le dernier véhicule que j'ai identifié comme étant peut-être un bon investissement.
J'écoute.
C'est un modèle qui existe à cause d'une histoire que je vais raconter en fait d'abord. Rappelle-toi, il y a quelques années à peine, là, quand Cadillac a décidé de nommer toutes ses berlines avec le nom CT. Hein, on avait la CTS qui allait devenir la CT5, on avait la TS qui allait devenir la CT4, et on avait de grosses berlines, notamment la STS ou la DTS ou la XTS. Dans le fond, on avait trois gros modèles un peu bizarres qu'on a fini par fusionner en une voiture, la CT6. La CT6, c'est quoi? C'est tout simplement la grosse berline américaine de luxe vue par Cadillac. Hein, une compagnie qui, à une époque, là, bon, on disait que c'était le standard mondial.
Ouais, ouais.
Imagine-tu le standard que chaque marque souhaitait atteindre en termes de raffinement et de luxe. On est bien loin de ça aujourd'hui, malheureusement. Eh bien, la CT6, ça a été essentiellement un échec commercial. Personne n'en a acheté. Donc, les taxis ont continué de vouloir acheter des XTS, puis Cadillac en vendant encore. Là, on pouvait aller sur leur site en fabriquer, puis ils savaient, je pense, que c'était pour les taxis.
Puis c'était pas mal moins cher.
Pas mal moins cher. Donc, le résultat de la CT6, ça a été un flop. On a rapidement annoncé qu'on allait la canceller tout simplement en Amérique du Nord. Coup de théâtre. GM annonce que non seulement il n'est plus cancellé, mais elle va être disponible avec un moteur qui s'appelait le moteur Blackwing. C'est la première fois qu'on entendait ce mot-là. Aujourd'hui, on sait que Blackwing, c'est attribuable au CT5 et CT4 de performance, mais à l'époque, c'était un nouveau nom. Ce Blackwing, c'est quoi? C'est un V8 biturbo de 4,2 litres qui développe jusqu'à 550 chevaux dans cette voiture-là. Ça, c'est si on achetait la CT6 V-Sport, là, la Blackwing.
Ça que personne n'a fait.
Non, parce que 4 motrices, en plus, c'est fou, mais il y en a seulement 1400 qui ont été vendus. Cadillac nous disait, non, ils ont tous été vendus rapidement, les premiers modèles qu'on a fait, peut-être. Mais au final, il y en a juste 1400 qui ont été faits dans le monde avant que Cadillac tire définitivement la plug sur ce modèle. Donc, on a une grosse berline américaine de luxe qui, honnêtement, se conduisait très bien pour avoir, j'ai eu la chance de la conduire la CT6 avant qu'elle disparaisse, qui avait une super conduite, superbe suspension, bon moteur, vraiment un beau produit. Puis, à 80 000 $, là, qui, en fait, la version intéressante était 100 000, mais c'était pas si cher pour ce qu'on avait si on la comparait à des produits allemands. Mais n'empêche qu'il y en a juste 1400 dans le monde de cette voiture-là. Donc, je pense vraiment que si quelqu'un, dans quelques années, veut un modèle intéressant à acheter pour avoir, tu sais, une valeur, un investissement, ça va être ça, trouver une Cadillac CT6 avec le moteur Blackwing. Il y en a juste 1400 dans le monde. Probablement que ça va être une méchante aubaine. Puis je suis convaincu que dans quelques années, on va regarder cette voiture-là comme la dernière tentative de Cadillac de faire la grosse berline à essence avant, malheureusement, de devoir en faire des électriques.
Intéressant. J'ai peu d'arguments contre, à part de reprendre le même que celui de Lincoln, que le berline Cadillac des 30 dernières années a pris de la valeur, à part les versions V de la CTS.
La Deville.
Non, mauvaise réponse. Mais effectivement, je comprends ton point de vue du dernier modèle phare, de la dernière grande berline, ouais, de la rareté de cette voiture-là, qui encore une fois, ben, va se dénicher pour pas trop cher dans l'occasion et atteindre le creux de vague assez vite. Parlant de creux de vague, Marc-André, deux autres modèles qui s'y trouvent en ce moment. Et je te laisse languir un petit peu parce que bon, ben, dans les voitures qui ont pris de la valeur ces dernières années, qu'est-ce qu'on retrouve principalement?
Ça me fait
comme type de voiture.
Ben, notre génération, c'est eux qui en ce moment achètent pour la première fois des voitures antiques, des voitures de collection. Les gens de notre génération achètent ce qui a marqué leur enfance.
Voilà. Les Japonais. Sportives qu'on n'a pas pu s'acheter quand on était jeune. Et là, je
les
mets des guillemets
Acura
parce que
RSX.
Je suis encore jeune.
Les Acura RSX ou les Integra, encore mieux, les Integra.
Oui, donc les Integra, c'est vraiment la génération X. Donc, et j'inclus dans le lot trois voitures, dont une que tu as nommée, l'Acura RSX.
Oh.
La Honda Prelude, hein, de la génération 97-2001, et Civic SIR, qui portait le nom SI aux États-Unis.
C'est vrai,
donc,
c'est vrai.
Donc, le modèle EP3, donc...
La petite hatchback.
La petite hatchback, trois portes, et ben en fait, ce sont trois produits Honda qui sont vraiment au creux de la vague en ce moment parce que, bon, les gens n'ont d'yeux que pour la CRX, par exemple.
Ouais.
Donc, même les Civic SI des années 90, ça commence à être recherché, ça commence à être or. Donc, j'ai bien l'impression que les prochaines à attirer le regard et l'attention des collectionneurs, eh bien, ce sera ces trois modèles-là. Donc, ce sera à surveiller. Des voitures qui n'ont pas toujours été cajolées parce que, justement, elles avaient une vocation sportive. Mais tout de même des voitures marquantes. Ben la Civic, on l'a mentionné. Donc, c'était la seule Civic du moment qui n'était pas assemblée au Canada. Donc, elle était assemblée au Royaume-Uni, ce qui est assez particulier. L'habitacle était différent. On avait le levier de vitesse quasiment sur la planche de bord. Donc, c'était...
Mais c'était pour le rallye. C'est pour pas perdre de temps quand on change de vitesse. Être le moins longtemps possible sans avoir les deux mains sur le volant.
Voilà. Donc, c'est assez particulier.
Pour aller au métro faire sa commande, là, c'est bien pratique.
Donc, la Civic boutique caissière bien spéciale. Le site Bring a Trailer en a affiché une seule sur son site. Et ben étrangement, c'était une voiture de la rive sud de Montréal.
Une SIR, hein?
Oui, une Civic SIR de la rive sud de Montréal qui avait très, très peu de kilomètres. Et malheureusement, la mise n'a pas dépassé les 12 000 dollars américains. Ce qui fait que la voiture ne s'est pas vendue. Et c'est le seul exemplaire qui a été mise en vente. Elle était comme neuve. Okay. Comme neuve.
Parce que tu savais que cette voiture-là, j'en ai cherché longtemps, parce que j'en voulais une, puis j'ai jamais réussi à en trouver une. Ben, en l'essayant, parce que je t'en ai essayé plusieurs, là, tu sentais qu'il y avait, ça avait été battu à mort, là.
Ouais, c'est des voitures à kilométrage élevé qui ont été modifiées, qui ont été battues à mort. Et, ben, c'est le cas des trois voitures. Autant un Prélude que la Civic SIR, que la Acura RSX. C'est des voitures qui n'ont pas été ménagées. Donc, d'en trouver une qui a survécu à toutes ces...
à la vie, quoi.
À la vie, quoi. Ben, ça relève presque du miracle. Marc-André, nous avons des raisons bien personnelles de croire que certains véhicules pourraient prendre de la valeur ou non au fil des ans. Eh bien, la réponse, on va la connaître justement au fil des ans parce qu'on n'a pas de boule de cristal entre les mains.
Malheureusement pas, sinon on serait pas ici, mais sur un yacht en train de siroter un pina colada double dans les chauds climats comme bon millionnaire d'investissement, on aurait été.
Hey, t'es big quand t'as un pina colada double.
Eh oui, t'en regardes pas les dépenses.
Double tranche d'ananas, wow!
Ouais, c'est ça.
Merci d'avoir été avec nous. C'était Marc-André Gauthier et moi-même, Germain Goyer, à l'animation.
C'était Philippe Séguin, à la réalisation, au montage et à la musique.
C'était une production
Cube Radio.